الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام نغمسي الله سبحانه وتعالى كي ندن possibilité ce mardi soir de reprendre donc les programmes concernant Ashrat al-Sa'a al-Kubra, concernant les grands signes de Qiyama. Mais avant même de remercier Allah Azza wa Jal de nous permettre de reprendre l'acquisition au talabul ilm, l'acquisition de la science religieuse concernant une des branches les plus importantes du din, l'aqidah, la croyance islamique, avant cela, nous devons être reconnaissants, remercier Allah Azza wa Jal qui nous a permis de jeûner le mois de Ramadan. Quand Allah subhanahu wa ta'ala donne la possibilité à un musulman de faire des bonnes actions, on va se rapprocher un petit peu, on n'a pas besoin de parler trop fort. Quand Allah azza wa jalla donne la possibilité à un mu'min d'accomplir une bonne action, le musulman doit avant tout remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'accomplissement d'une bonne action, ce n'est pas le résultat de nos efforts. C'est tawfiq min Allah. C'est Allah qui choisit qui il veut pour faire son ibadah, pour faire son adoration. Deuxièmement, quand Allah subhanahu wa ta'ala donne la possibilité à un musulman de faire de bonnes actions, l'étape qui vient juste après, c'est de rechercher al-qaboul, rechercher l'acceptation de la part d'Allah. C'est Allah qui donne tawfiq, qui accepte, qui choisit pour faire, et c'est Allah qui décide s'il accepte, oui ou non, l'action qui a été accomplie par cet être humain, ce mu'min. C'est pour ça qu'Ibrahim alayhi salam, après avoir construit la Kaaba avec son fils Ismaïl, il avait demandé ce dua, Rabbana, taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Le souci du mu'min après l'accomplissement d'une bonne action, donc, c'est est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait? Est-ce que l'action a plu à Allah azza wa jal? Est-ce que l'action comportait les sifat, les qualités, comme c'était le cas des actions du prophète alayhi salatu wa salam et des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in? Troisième chose, lorsqu'Allah azza wa jal nous donne la possibilité de faire une bonne action, et principalement quand c'est une longue période de hasana, de bonne action, où c'est des actions assez importantes, comme le mois de Ramadan, voilà comme quelqu'un qui va faire le Umrah, ou quelqu'un qui va faire le Hajj, hein, où il sait, mashallah, il a fait énormément d'efforts dans l'accomplissement du Hajj, dans les ibadah, dans les dhikrullah, dans les du'a, après une longue période de concentration, de dévotion et de pratique, la personne maintenant doit faire l'intention de rester ferme, istiqam, de rester ferme dans les bonnes actions, dans les actes d'adoration. Parce que quand un mu'min accomplit une bonne action, et que dès l'accomplissement de la bonne action, il fait le niya, l'intention que « Oh Allah, accepte-moi pour faire cette action, et oh Allah, je fais l'intention de continuer, de rester ferme dans cette bonne action tout le temps », on appelle ça « al-istiqam ». Et Allah Azza wa Jal aime ce genre d'action. Quand un musulman accomplit une bonne action avec régularité et constance. Le hadith est très connu. Ahabbu l'a'mali ilallahi adwamuha iqbal wa in. Connu ça, madrasa, on a appris. Ahabbu l'a'mali ilallahi adwamuha wa in. Zakaria, wa in qalla. L'action la plus aimée par Allah Azza wa Jal, c'est celle qui est faite avec constance. Istiqama, même si c'est peu. Il est mieux de faire une petite quantité de bonne action, mais régulièrement, plutôt que la personne, dans le mois de Ramadan, elle va lire énormément le Coran, 3, 4, 5, 6, 6 par an, 5, 12 par jour, mais après le mois de Ramadan, il va ranger son Coran, il ne fera plus d'or, il attendra les prochains taravik. Là, c'est un problème. Il est mieux qu'une personne lise un juz ou un demi régulièrement, forcer la dose pendant le mois de Ramadan, certes, mais l'action doit rester quelque chose de propre au mu'min. Ça doit faire partie de manière intrinsèque à notre vie, que dans mon existence, dans ma vie, il y a qiyamul layl, il y a le tahajjud. Dans ma vie de tous les jours, il y a lecture du Qur'an. Dans ma vie de tous les jours, il y a dhikrullah. Dans la vie de tous les jours, il y a le du'a. C'est pas que j'attends le mois de Ramadan, au moment de rompre le jeûne, que je vais lever les mains et demander du'a à Allah. C'est pas uniquement ce moment. C'est pas uniquement que je suis de wukuf Arafat, que pendant une heure et demie, je fais du'a. Le du'a doit faire partie également de la vie du mu'min. Quand le prophète alayhi salatu wa salam a dit que ad-du'a huwa al-ibada. Le du'a, c'est l'action, c'est l'adoration par excellence. Ad-du'a huwa al-ibada, c'est l'adoration par excellence, parce qu'à travers le du'a, on fait vivre deux qualités du mu'min, at-tazallul wal khudu', ce qu'on répète tout le temps, hein, la soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'on peut amener une chaise pour Hadji Sam, une chaise. At-tazallul, c'est bon, barakallah fi, Allah yashfi. At-tazallul wal khudu', la soumission et la dévotion. Parce que quand quelqu'un fait du'a, après on va revenir à Isa alayhi salam, de toute façon c'est pas maintenant qu'il va, inchallah, revenir. Quand on fait du'a, Le mu'min, il sait quelle est sa position. Que moi je fais doua, pourquoi je m'adresse à Allah? Parce que même si je suis fort, je suis jeune, je suis riche, j'ai des relations, je suis, alhamdulillah, j'ai tel bienfait, mais je ne peux rien sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal, sans l'accord, sans l'autorisation, sans le qudrat d'Allah Azza wa Jal. Donc quand je lève mes mains déjà, c'est un signe de reconnaissance. Je reconnais ma position de makhlouq. Et je sais que quand je lève mes mains vers le Khaliq, vers le Créateur. Et que Allah, il est Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Inna Allah ala kulli shay'in wakil. Inna ma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Que Allah, il est capable de tout. Allah, c'est lui qui prend les décisions. Et si Allah décide quelque chose, c'est l'ordre d'Allah et la chose se produit immédiatement. Le prophète alayhi salat wa salam avait rappelé au mu'min, à ce jeune sahaba, que sache que si l'humanité, se réunissait pour t'aider, pour faire quelque chose de bien pour toi. Personne n'y pense que j'ai des relations, la droite à préfecture, au conseil général, au conseil régional, à la mairie, au commissariat, chez le préfet, etc. On a cité tout, hein, d'accord? Et donc, il n'y a rien qui se dressera sur mon chemin. Je suis l'homme le plus intégré, qui a le plus de pistons. En arabe, on dit ça, le plus de wasita, hein, il y a le plus de connaissances. Là, wallah. Si Allah n'a pas pris une décision, si ces gens-là, ils se réunissent pour t'apporter quelque chose, si Allah ne l'a pas décrété, ils ne te feront rien de bien. Et dans l'autre sens aussi, si le monde entier se réunit, le prophète alayhi salat wa salam utilise les bons termes, wa'alam, il n'a pas dit wa'alam anna nasa law ijtama'u, wa'alam anna ahlak ou qabilatak. Non, le prophète n'a pas dit sache que si tes proches ou ta famille ou les musulmans ou les gens qui t'entourent, le prophète a dit wa'alam anna dunya, sache que si le dunya, c'est-à-dire qu'on parle de dunya, c'est tout le monde. Tout ce qu'il y a de ce dunya, tout ce qui est créé. Sache que si l'humanité tout entière se réunit pour te faire du tort, rien ne peut t'arriver sans l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Toutes ces convictions-là, ça se résume dans mon doua, quand je lève mes mains. C'est pour ça que quand on fait doua, on doit pas faire, ça ne doit pas être un rituel. C'est d'ailleurs un petit peu dommage qu'on a banalisé le doua. De quelle manière on a banalisé le doua? En insistant parfois un peu trop sur les doua en congrégation, ce qui fait que le musulman ne sait plus faire doua. Si à chaque fois pour faire doua, on attend que l'imam il lève les mains, il dit, et on dit amin, 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 mais il n'y a plus trop de différence entre la mosquée et l'église. Au lieu de dire amen, on dit amin. Et on ne comprend strictement rien ce qu'il dit, et on dit juste amin. Et on a l'impression qu'après ça, on a fait beaucoup de doua. On n'a rien fait. On a juste dit amin. Peut-être qu'il fait doua pour lui, pour sa famille, pour ses... Wallahu musta'an. Le vrai doua du musulman, c'est quand il lève ses mains et il parle avec Allah. C'est quand il raconte à Allah tout ce qu'il y a sur son cœur. C'est lorsqu'il est capable de se confier à Allah, de dire à Allah ses chagrins, ses peines. S'il a des gens qui l'aiment, qui l'ont quitté, il dit à Allah, oh Allah, j'aimais cette personne qui m'a quitté, oh Allah, cette personne est entre tes mains maintenant, oh Allah, aie pitié pour lui, hein, que sa tombe soit un jardin du paradis, etc., etc. C'est ça le doua du musulman. Si on a un problème, oh Allah, j'ai tel ibtila, tel problème, telle épreuve dans ma vie, hein, les épreuves c'est toi qui envoies, la solution ça, elle vient de toi, oh Allah, envoie ta nusra avec ou sans intermédiaire, fais-moi trouver la meilleure solution, guide-moi vers les gens de bien, etc., etc. C'est ça le doua du mu'min, c'est ça le doua du tahajjud, c'est ça le doua de rupture de jeûne, c'est ça le doua de toute la vie, se confier à Allah Azza wa Jalla. Et ça Allah Ta'ala aime ça. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah Ta'ala dit qu'il est proche. Quand quelqu'un il s'adresse, il demande, hein, il a besoin d'Allah, Allah est proche. Et Allah dit وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ immédiatement. وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي. Votre Seigneur dit invoquez-moi, أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Je vous réponds, j'exauce. Donc ça c'est des qualités, mes chers frères, à développer dans la vie de tous les jours. Il ne faut pas que les doigts s'arrêtent au 29 Shawwal. Il ne faut pas que le qiyam, le tahajjud ne doit jamais s'arrêter. Jamais s'arrêter. Un mu'min qui a pu faire 29 jours de Qiyam al-Layl, il a eu un cadeau inestimable de la part d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi s'en priver? Est-ce que si on se réveille de tahajjud en dehors du mois de Ramadan, est-ce qu'on pense qu'il n'y a pas de hasanat? Ou alors est-ce que par rapport au fait que ce n'est pas le mois de Ramadan, on craint d'être fatigué pour la journée? Là, wallah. Et une preuve, hein, c'est pour ça qu'on ne va pas parler de tout en même temps, on a le problème c'est Isa alayhi salam. Quand les ulama ils parlent de cette Shawwal, les 6 jeûnes de Shawwal, ils disent que un des faïda, une des sagesses et un des secrets, j'aime pas trop le mot secret parce qu'après on dévie, un des secrets qu'il y a dans les 6 Shawwal, c'est une preuve de kaboul du Ramadan. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il se dit que
Une preuve d'acceptation des a'mal, c'est quand Allah te donne tawfiq immédiatement après la bonne action de refaire d'autres bonnes actions. On parlait tout à l'heure des événements importants. Quelqu'un qui revient d'un hajj, il décide, par exemple, quelqu'un qui n'avait pas de barbe, après le hajj, il décide, il garde la barbe. Ou quelqu'un qui, après le hajj, avant, il mettait le pantalon un peu au-dessous des chevilles, tout en sachant que ça va brûler fort là-haut. Mais il dit que non, là on va changer, je change ma vie. Une femme qui part au hajj, qui revient, dit maintenant je me couvre les cheveux, je ne veux pas m'attirer la colère d'Allah du matin jusqu'au soir. Mais ça c'est dalil ala al-qaboul, ça veut dire que l'action a été agréée, a été acceptée par Allah. Qaboul, c'est quand Allah nous donne tawfiq de faire d'autres bonnes actions après la période intense de hasana, de bonnes actions. Quelqu'un qui a eu tawfiq min Allah de faire itikaf, subhanallah. Quelqu'un qui fait itikaf, il fait qiyamul layl tous les jours, il fait shuruq tous les jours, il fait zikrullah, il lit le Qur'an. Il faut essayer de garder istiqama. Pas au même rythme, bien sûr. On ne pourra pas avoir le même rythme toute notre vie. Hein, encore une fois, on dit ce dîn a été révélé pour des hommes et non pas pour des malaïkas, pas pour des anges. Et Allah, il connaît nos faiblesses. Mais ne serait-ce de se faire un programme. Essayer de programmer sa vie, parce que mes chers frères, notre vie là, c'est pour Allah ça. On appartient à qui? On appartient à Allah. Qui nous a créés? C'est Allah. Et vers qui on retourne? Vers Allah. C'est simple, le schéma est simple. Allah nous a créés. On a un laps de temps, c'est un amana le temps. Le corps est un amana, les biens c'est un amana, la jeunesse c'est un amana, les facultés mentales, physiques, etc. La réussite, les biens, alhamdoulilah, tout ça c'est des dépôts. À propos desquels on a à répondre. Et en finalité, quand on dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on retourne auprès d'Allah Azza wa Jal. Le schéma est très simple. C'est pour ça qu'on comprenne qu'il n'y a pas, à dispatcher son temps entre le dunya et Allah. Là, wallah, tout est pour Allah. Tout. On appartient à Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati li lillah. Tout appartient à Allah. On a été créé pour ça. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah nous a créé pour son ibadah. On rappelait pendant le mois de Ramadan, il y a des gens parfois disent que l'imam il est long, les tarawih, c'est fatigant, on est fatigué, on a mal aux genoux. Je dis subhanallah, vous avez mal aux genoux, vous avez des varices, vous avez des douleurs, des courbatures, dites à votre corps que de toute façon tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour être debout devant Allah, pour être en rukou' devant Allah, pour être en sujoud, en sijda, prosternation devant Allah Azza wa Jal. Que le mu'min, en sortant du mois de Ramadan, il réalise que ce qu'il a fait là, c'est un stage intensif qui a pour but de réveiller sa foi, réveiller son iman dans une période où Shaitan est absent, dans une période où le nafs il est très faible parce qu'on l'a dompté par le manque de nourriture, de boissons et de shahawat. Donc c'est une occasion unique pour que chacun progresse, il fasse des pas, il gagne entre guillemets des points et des darajat auprès d'Allah Azza wa Jal. Bien malheureux, ce musulman qui en sortant du mois de Ramadan, il se dit que maintenant je reprends un rythme de vie normal. Parce que mes chers frères, il n'y a pas de rythme de vie normal. Il y a notre vie pour Allah. Bien sûr, on a nos occupations, on a la famille, on a les enfants. Tout ça, ça fait de nous des insans et non pas des malaïkas. Mais ne jamais délaisser l'adoration d'Allah. Et ne pas se cantonner uniquement sur nos obligations. Les bonnes actions qu'on faisait, on doit faire niyyah de les garder. Je répète, zikrullah tous les jours. Lecture du Coran, on tire un temps régulièrement. Il y avait une citation de Cheikh Mokhtar Chanqiti. Vous avez dit dans quel kitab, je vous dis plutôt sur un réseau social, Facebook, il y a une personne qui rapportait une citation de Cheikh Chanqiti, un des grands ulama de Madina Munawwara, qui enseigne à Madina, qui enseigne à Mecca, quelqu'un qui, à un certain âge, il est resté célibataire parce que sa maman est toujours vivante. Il reste de le khidma de sa maman, alors que c'est quelqu'un qui, mashallah, s'il tend les mains, il a ce qu'il veut, mashallah. Mais il a dit que ma mère est vivante, je reste auprès d'elle jusqu'à sa mort. Il a dit que si vous arrive deux ou trois jours qui passent, vous vous rendez compte que vous n'avez pas lu le Coran, alors retournez chez vous et pleurez sur votre sort. C'est pas Sahaba qui dit là, c'est un contemporain, quelqu'un qui est encore vivant. Il a peut-être 50 ans là. Il dit que s'il arrive un musulman, il se rend compte que aujourd'hui c'est mardi, depuis dimanche j'ai pas lu le Coran, il dit que rentre chez toi et pleure parce que c'est une catastrophe pour toi et pour ton iman. Comment est-ce qu'on peut espérer que notre iman augmente ou qu'il reste stable? Parce que l'iman ne reste pas stable, soit il augmente, soit il affaiblit. Comment est-ce qu'on veut qu'on se rapproche d'Allah? Comment est-ce qu'on veut qu'on ait encore plus tawfiq de faire des bonnes actions si on ne nourrit pas ce cœur? Et la nourriture spirituelle, c'est quoi? C'est le dhikrullah et la lecture du Coran. Donc on fait niyat inshallah istiqama, parce que celui qui fait niyat istiqama, Allah Ta'ala, le Prophète dit que l'action la plus aimée par Allah, qu'on a dit tout à l'heure, celle qui est faite avec constance. Analysez bien les mots. Si mon action est faite avec constance, ça veut dire qu'elle sera aimée par Allah. Et maintenant, si l'action est aimée par Allah, c'est sûr que l'action sera acceptée. Qu'est-ce qu'on a dit au début? On doit se faire du souci pour que l'action soit acceptée par Allah. Ensuite, istiqama. Mais si on remplit cette condition de fermeté, de constance de l'action, ça veut dire que l'action sera aimée par Allah. Et quand l'action est aimée par Allah, automatiquement, elle sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah accepte nos actes d'adoration, nos ibadah, nos dhikr, nos du'as, et qu'Allah pardonne nos manquements et nos erreurs. Et il n'est jamais trop tard de rappeler que un des objectifs aussi des 6 shawwal, c'est de pallier les erreurs qui ont été commises durant le jeûne de Ramadan. Les muhaddithin, rahimahumullah, ils expliquent que parmi les sagesses, les hikmahs qu'il y a dans les 6 shawwal, c'est que par le biais de ces jeûnes, Allah azza wa jal va pardonner, va expier les erreurs qui ont été accomplies durant les jeûnes du mois de Ramadan. C'est comme si on purifie notre Ramadan des petites erreurs. Parce que personne ne fait un jeûne parfait, il y a toujours des manquements, et le 6 Shawwal a pour but, parmi les objectifs, de purifier. D'accord? Et en plus, la récompense énorme qui est une année de ibad, une année de jeûne. Donc, Inch'Allah, on fait l'effort, ça aussi, de faire les 6 Shawwal et de faire passer le message à nos mères et à nos sœurs. Et puis, un dernier petit point, un petit rappel. Quand on ressort du mois de Ramadan comme ça, on est blindé là. On est blindé avec les hasanats, des bonnes actions, on a fait tellement de bonnes choses. Là, il faut faire attention aux pièges de shaitan. Les pièges de shaitan, c'est quoi? C'est de nous faire accomplir des actions qui vont détruire, des péchés, pardon, qui vont détruire le stock de bonnes actions. Vous savez qu'il y a des péchés qui ont comme conséquence de causer un poids dans la balance au jour des comptes, du côté des péchés, ça c'est clair. Ça c'est les péchés de base. Mais après il y a certaines catégories de péchés qui sont plus pervers. Ces péchés là ils vont bloquer l'acceptation de nos doigts. Ou alors ces péchés là vont nous empêcher de nous rapprocher d'Allah. Ou alors ils vont brûler nos bonnes actions. Donc ça c'est très grave. Et il faut mettre en garde contre ces péchés. Et parmi ces péchés il y a un péché intérieur, al-hasad. Ça me dit que la jalousie brûle les bonnes actions comme le feu consume le bois sec. Et quand quelqu'un éprouve de la jalousie, c'est qu'il remet en cause le taqdir. Je suis pas d'accord pourquoi Allah lui a donné, il m'a pas donné. Il remet en cause le taqsim, la hikmat d'Allah. Et la jalousie donc brûle les hasanat. Alors qu'on ressort avec beaucoup de hasanat, on doit essayer de corriger notre cœur, de ne pas éprouver ce genre de sentiment. On doit faire attention également à ce qu'on consomme. Ne jamais consommer quelque chose d'illicite, que ce soit nourriture, boisson ou revenus financiers qui doivent être purs, qu'il n'y ait aucun intérêt ou transaction illicite. Autrement, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle qu'une bouchée de nourriture haram, c'est quoi les conséquences? Parmi les conséquences, les du'as ne sont pas acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. On doit faire attention également aux relations familiales. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, celui qui rompt les relations avec son prochain au-delà de 3 jours et 3 nuits, les actions ne montent plus au ciel. On fait tahajjud, dhikrullah, Qur'an, les actions restent bloquées parce qu'on a rompu les relations avec telle personne. Dans le hadith qui parle du jeûne du lundi et le jeudi, ces jours-là, Allah pardonne aux mu'mines à l'exception des personnes qui ont rompu les relations. Alors si on a un cousin, un tonton, un beau-frère, une kala, un proche ou éloigné avec qui on a coupé les ponts, ça c'est très 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 grave. Il faut absolument aller vers la personne. Et comme on dit, demander maf, même si on n'avait pas, on n'a rien fait, même si on est en droit, même si on n'a pas tort, mais ça c'est un principe important. Ça c'est ce qu'on appelle silatul rahim. Et enfin on terminera avec une action extrêmement importante pour ceux qui ont la chance encore d'avoir les parents ou un des parents vivants, c'est le respect des parents. Car notre prophète Ali salatu wassalam nous a dit, attention aux musulmans, la yadkhulul jannata aq, celui qui a manqué les devoirs envers les parents n'accède pas au paradis. Hadith Tirmidhi. Et les muhaddithin disent comment il n'accède pas au paradis. Il dit que la personne peut mourir avec su'ul khatima, une mauvaise mort, même si toute sa vie il a fait de bonnes actions, il peut mourir de la pire des façons qui fait qu'il ne pourra accéder au paradis. Donc ça, mes chers frères, il faut faire extrêmement attention. Même si on est pieux, religieux, quel que soit notre degré de pratique, la base c'est l'obéissance envers Allah, bien sûr, et juste après c'est l'obéissance envers les parents. Jamais quelqu'un ne réussira s'il met à dos ses parents, s'il n'a pas la bénédiction, les doigts de ses parents, s'il n'a pas recherché le contentement des parents, s'il n'a pas pu avoir le paradis par le biais du khidma de son père et de sa mère. Et avoir des parents âgés, les hadiths décrivent que c'est un trésor. Avoir des parents âgés, c'est un trésor parce que quand ils sont âgés, ils ont plus besoin de nous. Et donc on peut faire encore plus pour eux et gagner encore plus le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc faire attention, si on fait beaucoup de bonnes actions, on a manqué de respect envers nos parents, la personne n'accède pas au paradis. Et le prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam, excusez-moi, il ne plaisante pas quand il dit la yadkhulul jannah, n'entre pas, n'accède pas au paradis, c'est pas une mise en garde, c'est pas mimbab et takhwif pour faire peur, c'est vraiment cette personne-là ne mérite pas l'accès au paradis. Et enfin, attention, volme, l'oppression, quand on a fait du tort, surtout si on est patron parfois, ou alors s'il y a des gens sous notre coupe, sous notre responsabilité, le prophète alayhi salat wa salam a dit qu'un musulman se présentera devant le tribunal d'Allah, azza wa jal, avec des montagnes de bonnes actions. Mais, وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا, il a insulté, il a humilié telle personne, il a accusé à tort, il a fait du mal aux gens. Il croit qu'il est sauvé, parce qu'il voit la balance du côté des bonnes actions, c'est des montagnes. Il y a Hajj, il y a Umrah, il y a Dhikrullah, il y a Qur'an, il y a Sadaqa, construction d'une mosquée, d'une médiation. Il se dit que je suis blindé. Mais de l'autre côté, il ne voit rien. Mais quand les comptes sont terminés, il y a une dernière étape. L'étape des mazloum, des opprimés. Allah Ta'ala appellera les opprimés. Il va dire, l'opprimé va dire, oh Allah, cette personne a fait telle chose. Et Allah Ta'ala va demander à l'opprimé, on appelle ça hadith al-muflis, qu'on a cité maintes et maintes fois par rapport à son importance. L'opprimé va puiser des bonnes actions de son oppresseur. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est dommage. Parce qu'on a fait plein de bonnes choses, parce qu'on a manqué par rapport aux droits d'une personne, où on a été impoli, ou alors on a fait du tort, du zulm, de l'oppression de manière générale, la personne va prendre généreusement, Allah musta'an, nos hasanat. Et les hadiths disent que si à un moment donné les gens ont pris les bonnes actions, il ne reste rien de notre compte, Allah Ta'ala ordonnera aux anges de prendre les péchés des opprimés, de mettre dans la balance de l'oppresseur. Et là, c'est un réel problème. J'ai jamais été en boîte de nuit de toute ma vie, jamais bu d'alcool, jamais fait tel péché, et le jour des comptes, la personne risque de retrouver ses péchés dans son livret de compte. Et l'origine, c'est quoi? Le tort causé aux autres. Vous voyez comment c'est lourd en conséquence? C'est pour ça que pour être un bon mu'min, on doit parfaire nos relations avec Allah, mais parfaire également nos relations avec les hommes, avec les gens qui nous entourent. Donc c'était une petite, plutôt une assez grande parenthèse, mais c'est extrêmement important, parce que quand on sort du mois de Ramadan, hein, il ne faut pas qu'il ait le sentiment d'autosatisfaction. Ce n'est pas 11 mois pour Shaitan, un mois pour Allah. Na'oudou billah. Ce n'est pas que là, le Ramadan, c'était le mois d'Allah, et les 11 mois qui viennent, c'est pour mon nafs, mon ego et ce que j'ai envie de faire. La wallah. Parce que si je dis que ces mois-là, c'est pour moi, ce n'est pas pour moi, c'est pour Shaitan. Que Shaitan fait le maximum pour attirer l'être humain vers les passions, les pulsions, les choses que chaque personne aime. Donc chaque mu'min reste vigilant, n'oublie jamais qu'il a un rendez-vous avec Allah. Gardez à l'esprit ce verset, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ اللَّهِ, craignez ce jour où vous retournerez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant le mois de Ramadan, on va faire encore un quart d'heure inshallah pour compléter les 40 minutes. Avant le mois de Ramadan, alhamdulillah, on a eu la possibilité, le tawfiq minallah, de compléter le deuxième grand signe de Qiyamah, qui est la venue de Al-Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Tout départ, avant, je pense que 4 ou 5 ou 6 mois avant, on avait commencé les grands signes de Qiyamah avec le premier signe, c'est la venue de Al-Mahdi, la venue de Imam Mahdi. Et on avait vu qu'à la fin, hein, des conquêtes, durant l'époque, durant l'ère de Al-Mahdi, ils auront la nouvelle, après la conquête de Constantinople, ils entendent des rumeurs qui disent que l'Antéchrist est maintenant apparu. Et là, ils vont voir, et l'information était fausse, mais quelques temps après, Ad-Dajjal est réellement parmi les hommes. Et Al-Mahdi a pour but d'essayer de réunir les gens, de mettre en garde les gens contre Dajjal, et d'apporter son aide aux mu'mines. Mais la mission de Mahdi va s'arrêter. La mission de l'imam Mahdi va bientôt s'arrêter, parce qu'il va passer le relais à un troisième, subhanallah, grand signe de Qiyamah, qui va rester, qui sera un des signes les plus importants, c'est la venue de Isa, alayhi as-salatu wassalam, le retour de Isa, qu'on appelle, les chrétiens l'appellent là, le retour de Jésus-Christ. Et donc, on avait vu la dernière fois, comment est-ce que Isa, alayhi salam, on avait vu, parce qu'on voulait expliquer un petit peu comment Dajjal sera exécuté, la mise à mort de Dajjal par Isa alayhi salam. On avait vu que Isa alayhi salam a un tel aura que lorsque Dajjal le voit, Dajjal meurt normalement. Le hadith dit bien yadoubou, il faut comme le sel se dissout dans l'eau, parce qu'il y a un parfum qui se dégage de Isa alayhi salam qui est insupportable pour Dajjal. Et donc Allah azza wa jal, dans sa sagesse, il décrète que Dajjal s'enfuit à la venue de Isa alayhi salam. Vous rappelez qu'on avait parlé du récit lorsque les mu'mines sont dans le Baytul Maqdis et que les portes s'ouvrent et que Dajjal, hein, il pense pouvoir qu'il encerclait les musulmans, et il est surpris de voir Jésus-Christ Isa sortir. Il savait pas que Isa était dans cette mosquée. Ça montre également que Dajjal, hein, ses pouvoirs prennent fin. Au début, il pouvait faire plein de choses, redonner la vie à quelqu'un qui était mort, etc., etc. Mais à la fin du temps, il ne sait même pas qui c'est qui est derrière cette porte, le pauvre. Et donc, il voit tout d'un coup Isa alayhi salam sortir, et Dajjal prend la poudre d'escampette, il essaie de s'enfuir, et Allah décrète que Isa alayhi salam, hein, s'en va à sa poursuite, et il le tue avec une lance, et les gens vont voir le sang de Dajjal. Allah a voulu que Isa alayhi salam tue Dajjal de ses propres mains, et que les gens voient le sang de l'Antéchrist et non pas qu'il meure immédiatement en voyant Isa alayhi salam. Le but, c'est que les gens comprennent que celui qu'ils considéraient comme étant, na'oudhou billah, un dieu, n'est en fait qu'un être humain, et les gens vont se rendre compte de leur profonde erreur. Alors, la seule fois donc qu'on avait abordé le sujet de Isa alayhi salam, c'était pour la mise à mort de Dajjal, mais bon, on n'avait pas donné tous les détails, et là, inchallah, lorsqu'on va voir avec un peu plus de détails la vie de Isa alayhi salam et son retour, on va revoir légèrement ces étapes. Donc, ce troisième grand signe de Qiyama, là on passe dans les Nusrat d'Allah. Le premier signe de Qiyama, c'était cette Nusrat d'Allah, Imam Mehdi, mais on pourrait dire que c'était une Nusrat au début, et ensuite des Ibtila. Parce qu'Imam Mehdi, alhamdoulilah, il apporte une stabilité et Izzah, l'honneur à cette Ummah. Et on avait rappelé au début que jamais la Ummah n'aura connu autant de problèmes, de difficultés, qu'à la venue d'Imam Mehdi. C'est-à-dire, la Ummah va connaître une situation tellement difficile que celui qui proclame son iman, la personne met sa vie en danger. Et on voit parfois, hein, dans les faits d'actualité, on voit les mouvements d'extrême droite dans certains pays du nord d'Europe, etc., hein, qui souhaiteraient, hein, l'extermination de l'islam, l'expulsion de tout musulman. Hein, ça peut paraître marginal, mais à la fin des temps, ça se généralisera. Et les génocides vont reprendre à la fin des temps pour les personnes qui ont eu « La ilaha illallah Muhammad Rasulullah » dans leur cœur. Exactement comme l'histoire de Ashab al-Ukhdoud. « Qutil Ashab al-Ukhdoud, nani dati al-Waqoud, idhum aliha qu'oud » Et pourquoi est-ce qu'il leur faisait du tort? Il les brûlait, il les jetait vifs dans un feu. « Wama naqamu minhum illa yu'minu billah » La seule chose, c'est qu'ils croyaient en Allah Azza wa Jal. À la fin des temps, il y aura ce genre d'épreuve. Et ce seront là des périodes très difficiles. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wasalam avait dit que si quelqu'un entend parler de Dajjal, il ne faut pas aller le voir. Parce que c'est des moments durs, ça. Et le musulman ne doit pas souhaiter, ne doit pas, de son cœur, avoir l'envie, le tamanna de vivre ces moments-là. Parce que c'est des moments où la foi est tellement mise à l'épreuve qu'en finalité, quelqu'un peut se croire bon musulman, régulier, 5 fois par jour, namaz, il a la barbe, il a le Coran de son cœur, mais devant ces épreuves, la personne perd son iman dans son intégralité. Il perd tout. Tellement la personne risque d'être éprouvée dans sa foi. Ce seront là les pires moments de la Ummah. Et dans ces moments difficiles, Allah Azza wa Jal va envoyer Al-Mahdi. Mais Al-Mahdi va apporter une stabilité, l'honneur à cette Ummah pendant un certain temps. Mais quand Dajjal arrive, les problèmes vont se renforcer. Avec Dajjal et son armée, qu'on a déjà expliqué, hein, c'est un conquérant Dajjal. C'est quelqu'un qui est là pour ramener les gens avec lui dans l'enfer et verser le sang de ceux qui ne croient pas en lui. Donc, Mehdi, au début c'est Ni'ma, mais à la fin il y a des épreuves. Les musulmans seront éprouvés. D'accord ? Dajjal, c'est une épreuve. La plus grande catastrophe de l'humanité. C'est le plus grand fitna, plus grande source de troubles qu'Allah Azza wa Jal va envoyer sur ce dunya. Mais maintenant qu'on passe à Isa alayhi salam, c'est la plus grande nusrat d'Allah. C'est la plus grande fath, la plus grande ouverture, l'aide d'Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam, on va dire, c'est que du bonheur. Du premier jour jusqu'au dernier jour. Parce qu'avec Isa alayhi salam, Allahu Akbar, imagine le musulman qui est comme Amir, Isa alayhi salam. C'est quelqu'un qui est tranquille. Il sait qu'il est bien guidé. Parce que vous avez ce Isa, ce Jésus-Christ qui redescend, c'est le même qui était présent parmi les Nasara, avec les mêmes qualités, avec les mêmes sifat, avec le même aura, avec la même sagesse, avec la même force de persuasion, avec la même beauté physique, avec la même grandeur d'âme. C'est un prophète qui revient. Sauf que lorsqu'il revient, il est ummati. Il fait partie de la communauté du prophète alayhi salatu wassalam. Il n'a plus le rôle de prophète. Et les miracles qu'Allah lui avait accordés, les textes ne le précisent pas, mais s'il avait les mêmes miracles, ça aurait été précisé. Les miracles des prophètes. Il n'a pas les miracles des prophètes, mais il est là comme Amir al-Mu'minin. Et on avait vu, c'était symbolique, ça, c'est des textes très forts lorsqu'on parle de lorsque Isa alayhi salam vient, il se joint à la Jamaat, il se joint à la Salat en congrégation Baytul Maqdis qui est dirigée par Al-Mahdi. D'accord? Et lorsque le Mahdi voit Isa alayhi salam s'approcher, Imam Mahdi, il laisse la place à Jésus, à Isa alayhi salam, mais Isa alayhi salam dit que non. Il ordonne à Mahdi d'officier de commencer la Salat lui-même. Et là, c'est une grande preuve, les ulama disent que c'est une preuve qu'il est ummati. Il fait partie de la Oumma et il ne vient pas en tant que prophète. Parce que si c'était un prophète, c'est lui qui aurait dirigé la salat obligatoirement. Lorsque le prophète était présent, c'était lui qui officiait toutes les salats. Sauf quand il était malade à la fin de sa vie. Mais là, le fait qu'il laisse à Al-Mahdi la possibilité, c'est lui qui fait la salat, qui officie, ça montre bien qu'il est ummati. Il est, j'allais dire, un simple, subhanallah. Il fait partie de la communauté du prophète, alayhi salat wa salam. Et les textes stipulent qu'après la salat, là, il y a, on pourrait dire, naqlul khilafa. Hein, la khilafa passe de Al-Mahdi vers Isa alayhi salam. Et maintenant, comme les musulmans obéissent, Al-Mahdi, c'était le amir. Maintenant, le nouveau amir, c'est l'ancien prophète d'Allah Azza wa Jal, Isa alayhi salatu wa salam. Donc, ce troisième signe de Qiyama, on a dit, c'est que de la rahma, que des ouvertures de la part d'Allah, depuis le retour de Isa alayhi salam, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal reprenne son âme comme tout homme doit mourir dans ce dunya. Et c'est, on a dit, la plus grande nusra après les plus grandes périodes de troubles. Et c'est une consécration, c'est une récompense dans ce dunya pour les personnes qui ont su rester fermes contre les fitnas de Dajjal jusqu'à la fin. Et il y aura peu de gens qui seront dans ce cas. Il y aura peu de personnes, malheureusement, qui vont rester fermes dans leur din à l'époque de Ad-Dajjal. Et c'est pour ça que lorsque Isa alayhi salam, subhanallah, il descend à Baytul Maqdis, il va voir ces mu'mines hein, qui sont restés fermes. On avait vu le hadith avant le mois de Ramadan. Le hadith, il est magnifique, il est exceptionnel. Il dit que Isa alayhi salam, hein, il viendra, il passera sa main bénie sur la joue de ces musulmans, hein, qui, il va essuyer les larmes qui coulent de leurs yeux et il va leur rappeler quels seront vos degrés dans le paradis. Parce que ce seront là les meilleurs des hommes, ceux qui ont su lutter, qui ont pu tenir ferme contre le plus grand fitna qui a été créé dans ce alam de ce dunya, ils ont su rester fermes. C'était les porte-drapeaux de l'étendard de l'islam jusqu'à la fin. Ils n'ont pas faibli une seconde. Malgré tout ce qui se passe, les fitnas qu'il y avait avec Dajjal, et Isa alayhi salam va les rappeler qu'Allah azza wa jal vous a accordé un rang exceptionnel dans le paradis. Donc on a dit plus grande période de stabilité également, parce que les jours qui vont être vécus dans ce dunya, à l'époque de Isa alayhi salam, ce seront les meilleurs moments de l'humanité. Ce seront les périodes où il y aura le plus de baraka depuis la création. Jamais l'humanité ne connaîtra une telle stabilité, une telle quiétude, une telle tranquillité, autant d'abondance de biens qu'à l'époque lorsque Isa alayhi salam va régner sur ce dunya. Et bien sûr qu'on parle, quand il va régner, c'est après les deux grands événements. Après les deux grands événements, c'est-à-dire après Dajjal et après Ya'juj ou Ma'juj. Les années que Isa alayhi salam va régner, va diriger les musulmans, lorsqu'il n'y aura plus d'autres grands signes de Qiyama momentanément, ce seront les plus beaux jours du dunya, comme le hadith le décrit. Mais également, après le décès de Isa alayhi salam, le prophète alayhi salat wa salam décrit dans les hadiths que après le départ de Isa alayhi salam, il n'y aura plus aucun bienfait. Il n'y aura plus aucun moment de bonheur, parce que après le décès de Isa alayhi salam, ce sont là d'autres grands signes de Qiyama qui arrivent. Ce sont à nouveau des épreuves. Au début, il y avait Nusra et épreuve. Ensuite, il y avait période d'épreuve avec Ad-Dajjal. Là, il y a la Nusra totale avec Isa alayhi salam. Et après le décès de Isa alayhi salam, ce sont là des épreuves mais accablantes. Des épreuves insoutenables pour le mu'min, et Allah Ta'ala aura pitié de ces musulmans, qu'Allah Ta'ala va reprendre leur âme avec ce vent, cette brise qui va prendre l'âme en passant sur leurs aisselles, et il restera que les personnes qui désobéissent à Allah Azza wa Jal, et c'est sur ces gens-là que le qiyama aura lieu. Allah Ta'ala détruira ce dunya du vivant de ces personnes. Et important également, lorsqu'on parle du retour, nuzul, la venue de Isa alayhi salam, on parle de nuzul. Isa alayhi salam descend. Et pour bien comprendre hein, la descente, la venue de Isa alayhi salam, il faut comprendre pourquoi il est remonté au ciel. Et donc, je pense qu'il sera nécessaire d'ouvrir une petite parenthèse sur les croyances, j'allais dire communes, hein, des croyances parfois communes et souvent opposées entre musulmans et nasara sur ce point. Parce que s'il y a bien un sujet qui diverge, mu'min et nasara, c'est sur la croyance en Jésus-Christ, en Isa alayhi salam. Allah Ta'ala certes dit dans le Coran wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu zakaria inna nasara. Les gens les plus proches des musulmans, ce sont les chrétiens. Dans leur croyance, dans leur pratique, dans leur akhlaq, dans leur principe, dans la religion originale qui leur a été révélée, elle est très proche de nous. Mais la différence, wallahu musta'an, la différence, c'est ce qui a été innové trois siècles plutôt après le départ de Isa alayhi salam. Malheureusement, c'est les changements qu'il y a eu dans les croyances avec l'apparition de la Trinité et les falsifications qu'il y a eu dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment le fariq, la chose qui, l'action, la croyance qui va différencier les Nasara des musulmans, c'est le décès de Isa alayhi salam. Autrement, la naissance de Isa alayhi salam, sa jeunesse, la maman de Isa alayhi salam, son vécu entre Nasara et musulmans, c'est quasiment identique. Lorsqu'on analyse la vie de Jésus-Christ dans la Bible et l'histoire de Maryam alayhi salam, comment Allah azza wa jalla a insufflé l'âme de Isa dans son ventre par le biais de l'ange Gabriel Jibril alayhi salam, il y a beaucoup de points communs. Donc tout ça, il n'y a aucune divergence. Mais c'est au moment de mourir qu'il y a divergence avec ceux qui croient qu'il a été réellement crucifié, qu'Allah azza wa jalla a sacrifié, subhanallah, un des plus grands prophètes. Et le musulman qui sait qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quelle était l'épreuve de la part d'Allah et comment Allah Ta'ala l'a élevé. Bar rafa'ahu Allahu ilayh. Donc pour comprendre An-Nuzul, la descente, la venue de Isa alayhi salam, il faut faire un petit arrêt sur Ar-Raf'a, quand Allah Ta'ala l'a élevé vers les cieux. Et ça nous permet de comprendre les différences qu'il y a entre notre aqida et les aqida des autres communautés, des autres religions. Ça, c'est extrêmement important pour qu'on inculque également à nos enfants. Donc, je pense qu'on ne va pas démarrer vraiment. Ça, c'était une petite introduction. On en est à 36 minutes, encore 4 minutes, Inch'Allah. Il y a trois étapes, pour résumer, il y a trois étapes dans la vie, dans le retour de Isa alayhi salam. Si je ne me trompe pas, il va rester, j'ai plus en tête le hadith, je crois 7 années. Hein. Après Gog et Magog, il va vivre 7 ans, 7 années de ce dunya. Maintenant, si on compte la période où il a lutté contre Gog et Magog, et Ad-Dajjal, hein, on voit à peu près le laps de temps qui va passer sur ce dunya. Il y a trois étapes. Première étape de sa mission, c'est lutter contre Dajjal. Ça va être vite fait. Ça va être très rapide, la lutte contre Dajjal. Deuxième étape qui sera un peu plus compliquée, c'est lorsque Gog et Magog vont venir. Et là, Isa alayhi salam, dans ce signe de Qiyamah, sa charte au Sahara également, il aura un rôle primordial et essentiel. Parce que les musulmans auront la nusrat d'Allah par les invocations de Isa alayhi salam. Mais on va voir que Isa alayhi salam pourra, bismillah, se débarrasser de Gog et Magog, mais différentes étapes. D'accord? Et la troisième étape, c'est la vie de Baraka après Dajjal et après Gog et Magog, après Ya'juj ou Ma'juj, hein, ce qu'on appelait les afdal ou ayyam et dunya, les meilleurs moments de ce dunya, comme on l'a décrit donc tout à l'heure. Mais comme on a dit, la prochaine fois qu'on va démarrer, on va commencer d'abord pour une petite introduction sur l'aqida du musulman, sur Isa al-Islam et l'aqida des Nasara, et bien voir comment est-ce qu'Allah Ta'ala l'a repris. Alors on va juste citer trois versets, hein, qui prouvent qu'Allah Azza wa Jalla, les versets du Coran qui stipulent, hein, la venue, le retour de Isa al-Islam. Il y a un verset de surat Az-Zukhruf, walamma dhuriba ibn Maryama mathalan إذا قومك منه يصدون jusqu'à la fin وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. Il y a une lecture aussi, وإنه لعلم للساعة, il sera un signe au sujet de l'heure. Et ce il, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma, qu'on retrouve également dans tafsir de Qurtubi de tafsir Ibn Kathir, il dit que il sera un signe au sujet de l'heure. Il dit que ay huwa khuruj Isa ibn Maryam alayhi salam qabla yawm al-qiyamah, dit que ce verset parle de la venue, du retour de Isa alayhi salam avant la fin des temps. Donc le verset stipule que le retour de Isa alayhi salam fait partie des signes imminents du qiyamah. Il y a également un autre verset, wa inna min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawti, et il n'y aura aucune personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Imam al-Tabari rahimahullah, il dit, Imam al-Hassan al-Basri, subhanallah, Hassan al-Basri rahimahullah, il dit, أي قبل موت عيسى والله إنه الآن حي عند الله ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. Il dit que je jure par Allah que Isa alayhi salam, au moment où je parle, ça c'est Hassan al-Basri tabi'in, il est vivant auprès d'Allah Azza wa Jal, mais que lorsqu'il sera de retour sur ce dunya, toutes les personnes qui se disent Nasara, qui disent croire en Isa, en Jésus-Christ, toutes ces personnes-là, lorsqu'ils vont le voir revenir de ce dunya, ils vont apporter foi, iman sur Isa alayhi salam, et ils seront donc sur le droit chemin. Il y a également un verset hein, qui est là un petit peu plus, un peu plus complexe, حتى تضع الحرب أوزارها, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. L'opinion de Sa'id ibn Jubair, Imam al-Tabari, Imam al-Bayhaqi, Mujahid, Mujahid qui est quand même le cheikh, hein, le professeur d'Ibn Kathir, il dit que ce verset parle de Khuruj Isa alayhi salam. Lorsque Isa alayhi salam sera présent et qu'il y aura la paix sur ce dunya, ce sera la fin des hostilités, la fin des affrontements, la fin des guerres pour les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé aux sahaba, il a dit que Yushaku viendra un jour où Isa alayhi salam hein, reviendra de ce dunya. Hakaman muqsitan, imaman adla, comme imam, comme étant un dirigeant, un amir juste et loyal. Il a cité quelques missions de Isa alayhi salam et le prophète a dit faqra'uhu salam min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hein, que les personnes qui le voient, qu'ils le transmettent mes salams. Poissam demande à sa umma de transmettre ses salams à Isa alayhi salam lorsqu'il sera de retour de ce dunya. Et Abu Huraira radiallahu anhu également, dans un hadith de Abu Daoud, il dit que il avait demandé également au sahaba, dit que viendra une époque où il descendra sur ce dunya dans ce moment-là, penser à transmettre à Isa alayhi salam mes salams. Les salams de Abu Huraira. Cette citation d'Abu Huraira nous fait bien comprendre que la conviction, les sahaba, ils avaient iman yaqin sur le retour d'Isa alayhi salam. Chose qu'un être humain hein, qui se base que sur sa logique, sur sa cohérence, ne peut accepter. Malheureusement, là, il y a aussi ce genre de musulmans hein, qui croient que ce qu'ils voient, dit que ce qui est cohérent, ce qui est logique, j'aime cogiter et j'aime parvenir à mes propres conclusions, un esprit rationnel et concret. Allah musta'an, si on veut comprendre le dîn par un esprit rationnel et concret, prenez votre Coran et enlevez les premiers versets alladhina yu'minuna bil ghaib. Là, vous serez en accord. A'oudhu billah. Parce que la première qualité du mu'min citée au début du Coran de Sourate al-Baqarah, celui qui croit en l'invisible. Donc, on parle d'un homme qui a été élevé vers les cieux et qui retourne, j'allais dire 2000 ans après, 3000 ans, 4000 ans, 2500, Allah seul le sait, après tout ce temps. Et on va voir par la suite, quand il descend, il est exactement, il a la même description, la même apparence, et plus même encore, que lorsqu'il est remonté. Lorsqu'il est monté, il était jeune, un jeune homme, une grande beauté. Lorsqu'il revient, il aura le même âge, même aspect, même apparence, comme si il n'y a pas une minute qui s'était écoulée. Et plus encore, lorsqu'il a quitté ce dunya, lorsqu'il a été élevé vers les cieux, quel était le signe distinctif? Il venait de se doucher, il avait les cheveux encore mouillés. Isa alayhi salam a de grands cheveux. Il y avait encore des gouttes, des perlettes d'eau qui coulaient de ses cheveux. Et lorsqu'il descend, ses cheveux seront mouillés. Mais là, ce n'est pas que des gouttes d'eau. Là, les hadiths décrivent une vision exceptionnelle, magnifique, angélique, lorsque Isa alayhi salam descend avec ses mains posées sur deux anges, avec drapé dans un vêtement de couleur blanc jaunâtre, une beauté, quelque chose de magnifique. Retour de Isa alayhi salam, on verra par la suite. Et on avait vu avant ça où est-ce qu'il descend. Et il descend à Damasc, à Damas. Vous savez, c'est au Damas. Il y a un pays qui s'appelle la Syrie, le pays qui apparemment, selon on voit des images que le pays existe, mais apparemment pour les instances qui gouvernent le monde, ce pays n'a peut-être pas trop d'importance. Wallahu musta'an. Mais Isa alayhi salam descendra à cet endroit. Exactement. Même si le pays est mis à feu et à sang, ça restera à Sham, une terre bénie par Allah Azza wa Jal, et Allah choisit cette terre pour accueillir les premiers pas de un des ulul azm min ar-rusul, un des cinq grands prophètes, Isa alayhi salam, de cette fameuse mosquée au minaret blanc pardon, où Isa alayhi salam descendra. Donc la descente de Isa alayhi salam, c'est de cet endroit. On verra par la suite la description de l'échelle. C'est pas l'échelle qu'ils sont en train de mettre, c'est pas une échelle de pompier ou une échelle de monsieur bricolage ou de la paix ou autre chose. C'est vraiment une échelle également qui, subhanallah, ça fait partie du qudrat d'Allah. C'est quelque chose, c'est que du miracle ça. Parce que là, c'est le monde de l'invisible, j'aime bien moi ces expressions, c'est le monde de l'invisible qui rentre en communication avec le monde du visible pour un laps de temps. quand une créature sort du monde de l'invisible, ça n'existe pas, ça, de l'humanité. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui débarque tout d'un coup du alam al-ghayb, du monde de l'invisible. Non. Même si c'est un prophète, il y a la naissance. Man Nabi alayhi salatu wasalam, il est né comme un être humain normal. Mais là, c'est quelqu'un qui sort des cieux, qui descend immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui est propre aux malaïka, aux anges. Et c'est le premier homme qui quitte le ciel et qui vient de ce dunya. On verra par la suite, donc, inshallah, la description de cette échelle également lorsque Isa alayhi salam va revenir de ce dunya. Donc, revenir par Damas et l'apparition réelle, hein, prendre le zimam, l'umma, le imara, d'accord, être amir, être dirigeant de la umma, c'est au niveau de Baytul Maqdis. On verra donc ces détails, inshallah, la prochaine fois. Alors le programme, inshallah, les différents points qu'on va voir mardi dans deux semaines, inshallah, azzawajal, on va faire un petit historique des aqidah, comme on l'a dit. Ensuite, la foi d'après deux semaines ensuite, inshallah, azzawajal, il y aura également un point important concernant les emplacements, ce qu'on a dit brièvement, les hadiths à l'appui, d'où il va venir, la description de Isa alayhi salam lorsqu'il va descendre de ce dunya, et les textes qui montrent le khilafa qui lui est remis, hein, le passage de pouvoir, on va dire, entre Al-Mahdi et Isa alayhi salatu wa salam. Également, par la suite, on va voir, à la suite du programme, c'est quoi? Oui, la sagesse. Pourquoi Isa alayhi salam? Pourquoi est-ce qu'Allah envoie Isa alayhi salam? Pourquoi pas Moussa alayhi salam? Pourquoi pas Adam alayhi salam? Pourquoi pas, je ne sais pas, pourquoi pas le prophète alayhi salatu wasalam qui revient? Pourquoi cet homme précisément? On va voir qu'il y a beaucoup de hikmah dans les décisions d'Allah, subhanallah. Allah seul sait pourquoi il prend les décisions avec sa sagesse infinie, mais on va voir comment les ulama, ils ont défini, ils ont compris la sagesse qu'il y a dans la venue de cet homme-là et pas quelqu'un d'autre, Isa alayhi salam. Parce que ça va être une leçon également pour l'humanité, pour les gens qui le détestaient à son époque, ben, la revêt de la médaille, c'est que c'est lui qui va lutter, qui va mettre fin à la vie de Dajjal, le imam de ces personnes qui avaient essayé, hein, qui le détestaient lorsqu'il était prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va voir également Isa alayhi salam. Il va prêcher quoi? Injil ou bien Coran? Il va inviter vers quel dîn, vers quel aqidah? Là aussi, on va voir toutes les a'mal qu'il va faire. On va voir également le hajj, le umra de Isa alayhi salam, décrit par Nabi alayhi salatu wa salam. Bien sûr, tout ça à la lumière des hadiths. Et puis, on va revoir rapidement la première étape de sa mission, la lutte contre Dajjal, mais ça très rapidement parce qu'on avait vu pas mal de choses là-dessus. On va voir l'autre étape qui est un peu plus complexe, mais on va étudier à moitié parce que ça reste quand même le 1, 2, 3, le quatrième grand signe, la lutte contre Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj. Et ensuite, on va voir la vie après Gog et Magog, la baraka, la bénédiction qu'il y a à l'époque du Isa alayhi salam, fadlu ashabi, les vertus des compagnons, les vertus des personnes qui seront proches du Isa alayhi salam à la fin des temps, le nombre d'années qu'il va vivre de ce dunya et le décès, la mort de Isa alayhi salam comme tout être humain, parce que c'est le seul être humain qui n'est toujours pas mort, qui a été créé mais qui n'a pas encore goûté. Alors, donc, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal tawfiq, hein, de continuer donc ces programmes concernant la fin des temps, et qu'Allah remplisse nos cœurs de lumière, de iman, et remplisse nos cœurs de conviction sur l'invisible. Si on arrive à croire, la venue d'un homme, le Mahdi, la venue de l'Antéchrist, le retour d'un homme après 2000-3000 ans, on doit être encore plus capable de croire aux promesses du prophète alayhi salatu wassalam pour celui qui fait sa salat. On doit être encore plus capable de croire aux mises en garde du prophète alayhi salatu wassalam contre celui qui délaisse sa salat, contre celui qui laisse son pantalon négligemment descendre dessous de la cheville, contre quelqu'un qui ne s'habille pas correctement. C'est-à-dire qu'un des objectifs également, hein, de l'étude de ces textes qui sont vraiment extraordinaires, hein, c'est entre guillemets du fantastique un peu, c'est que si notre iman nous permet d'accepter ces événements exceptionnels, notre iman doit nous permettre d'accepter des faits qui sont beaucoup moins spectaculaires, les wa'ad wa wa'id, les promesses et les mises en garde concernant les actions du quotidien. Qu'Allah nous accepte et renforce notre iman. Et une petite parenthèse, hein, il y a une petite conversation entre beaucoup de ulama ce soir, des échanges de mails qui commencent et qui vont continuer à propos d'un événement heureux, inshallah, qu'on va vivre dans les jours qui suivent. Hein. Vous savez qu'il y a un qari qui vient d'Égypte. Sarhat, je crois qu'il s'appelle, je maîtrise pas trop les noms. Et donc ce qari va venir, c'est quelqu'un qui maîtrise, alhamdoulilah, la lecture du Coran, qui aura certainement une belle voix. Et on a vu les années avant ça avec, il y a les noms qui m'échappent, hein, avec, bref, hein, j'allais dire Mu'aqili, avec Hindawi, avec l'autre qui venait de Sud-Afrique, j'oublie les noms. On a vu qu'alhamdoulilah, quand un qari vient dans une mosquée, la mosquée est pleine, craquée. C'est comme un Eid ou un Bakrid, c'est extraordinaire. Une telle ferveur, on va se dire que, c'est une bonne chose. Hein. Les gens aiment le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est le miracle d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des paroles que beaucoup peut-être ne comprennent pas, mais on sait profiter de la beauté de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors le message qu'on essaie de faire passer, et que tous les collègues dans différentes masajid ils vont faire passer, et inshallah on compte également sur les personnes qui vont présenter le qari au public, si ce sont des ulama qui le présentent au public de différentes mosquées, inshallah également on espère qu'ils feront passer ce message. Certes la lecture elle est belle, on va être admiratif, on va être très attentif. Les sahaba ridwanullah alayhim ajma'in, lorsqu'ils écoutaient les versets du Coran, qu'est-ce qui se passait? Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, leur foi augmentée et leur conviction en Allah azza wa jalla augmentée. Ça c'était l'effet du dhikrullah, de la pensée, le fait d'évoquer Allah lorsqu'ils entendaient, il y avait cet effet direct sur leur cœur. Il y a d'autres versets qui ne me reviennent pas, on parle des frissons, hein, les cœurs frémissent lorsqu'ils entendent le Coran. Ça doit être la réaction du musulman lorsqu'on entend les paroles d'Allah azza wa jalla. Et écouter le Coran lu par une autre personne, c'est un ibada aimé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Ce hadith qu'une fois le prophète sallam avait dit à un sahaba, lis le Coran, je t'écoute. Et le sahaba dit au prophète d'Allah, aqra wa alayka unzil, comment moi je lis alors que c'est toi qui as reçu la révélation? Le prophète sallam dit non, jamais écouter les autres personnes, lis le Coran. Et le sahaba dit que j'étais en train de lire et jusqu'à ce que j'arrive, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Verset qui dit en ce sens que qui explique que le jour des comptes, le prophète alayhi salatu wa sallam sera le shahid, le témoin pour toutes les autres communautés que les prophètes avaient propagées, etc. Et il a dit que j'ai regardé, et le prophète m'a dit hasbouk, m'a dit maintenant arrête-toi, c'est suffisant. Et j'ai regardé le prophète alayhi salatu wasalam, ses yeux étaient remplis de larmes. C'était l'effet du Coran sur le prophète sallallahu alayhi wasalam, alors que c'est lui qui a reçu le Coran. Il maîtrise plus que quiconque ces versets, ces paroles d'Allah Azza wa Jal, mais l'effet du Coran sur le cœur du musulman, il est très profond. Et quand on dit très profond, ça doit être quelque chose qui vous touche au fond. Maintenant, manifester son contentement, sa joie, en vociférant Allahu Akbar, non, takbir, mashallah, y'a un cheikh et tout, c'est contraire à l'enseignement prophétique. Les sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, n'écoutez pas le Coran de la sorte. Certes, quand on entend, d'une manière générale, un musulman voit quelque chose de bien, il dit, mashallah, puis quand vraiment, un qari, bon, nous, enfin, moi je n'ai pas de qira, mais je ne sais pas, Iqbal, s'il n'a pas qira, mais un bon qari qui dit qira à la réunion, ben, je ne sais pas, son souffle c'est quoi, c'est 15 secondes, 20 secondes, après il touffe, donc après il s'arrête et puis il reprend. Mais à qari, ça va une minute trente, deux minutes, c'est des professionnels ça. C'est des gens qui, mashallah, ils font ça tout le temps. Donc c'est vrai qu'on est admiratif, d'accord? Qu'une personne dise Allahu Akbar, mashallah, bon, ça doit venir du cœur. Mais ça ne doit pas être un concours. Il n'y a pas de diomètre là, de mashallah ou maître. Il n'y a pas de ce genre de choses. Vous savez, moi ce qui me gêne profondément, c'est qu'on arrive à un Coran spectacle, à une religion, à un Islam show. C'est pas ça le but. Le Coran n'a pas été révélé pour qu'on hurle. Et je sais que dans certains endroits, à un moment donné, il y avait un semblant de compétition. Je ne suis pas contre le qari. Hein. J'espère qu'une personne qui m'écoute ou qui écoutera par lien interposé ne se dira pas que ouais, mon Ibrahim dit il faut boycotter le qari. Non, je serai le premier à l'écouter, Inch'Allah, quand il viendra. D'accord? Donc, d'ailleurs, on a décalé également nos programmes de concours Hajj, ça c'est autre chose, pour l'avenir qari. Ikraman lid-daif, par respect pour honorer notre invité, d'accord? Mais écouter le Coran, c'est une action aimée par le prophète, il n'y a rien à dire, il le faisait. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait de manifestations excessives qui frôlent l'ostentation. Pas de Coran spectacle. Le Coran a été révélé pour être lu, mémorisé, lu dans la salah, médité, afala et tadabbaruna al-Qur'an, et l'objectif c'est de mettre en pratique. Maintenant, si on ne fait que crier quand on entend le Coran, et qu'après il n'y a pas de pratique, si la malfajal est vide, ben, il y a un petit problème. Si pour Isha c'est plein, et que Fajal c'est vide, là il y a un décalage. Et ça prouve le décalage qu'il y a entre notre conception du dîn et la conception du dîn de Sahaba. Donc venez au Qiraat. S'il va à Saint-Louis, Saint-Pierre, Saint-André, Saint-Paul et Tampon, Hein? Et puis ça nie, bien sûr, on a fait les cinq, les civils ou le qari va aller. Alhamdulillah, si quelqu'un aime le qira, subhanallah, c'est une bonne chose, il aime la parole d'Allah, on va le suivre, on va l'écouter attentivement, mais ne pas exagérer dans les takbir. Il y en a qui disent qu'ils vont un peu trop là, il y en a qui disent également qu'il faut dire fort pour encourager. Je pense pas. Je pense pas que le qari ait besoin d'autant d'encouragement. Hein, on n'est pas dans un stade de football. On n'a pas besoin. On écoute le Coran, on n'oublie pas que c'est la parole d'Allah. Il ne faut pas que les cris prennent plus d'ampleur que. Hein, d'accord ? Il ne faut pas que les gens arrivent. Je dis que oui, mais Saint-Pierre, il crie plus fort que Saint-Denis. Ou que Saint-Louis, banan, fait péter. Banan a la voix. Banan, il gagne les filles quand il écoute le Coran. Non. Si c'est quelque chose de spontané, comme on voit quelque chose de magnifique, on dit Allah, mashallah, ça peut aller. D'accord ? Mais bon, pas d'excès. Et le modèle reste le Sahaba Ridwanullahi alayhim ajma'in. Donc, Inch'Allah, que ce qari, hein, sa venue soit profitable, qu'on puisse bien écouter et que l'amour du Coran entre dans nos cœurs. J'ai envoyé personnellement un message hein, aux personnes qui le font venir. Hein. Je dis félicitations, on était en train de voir un petit peu pour les dates. Je dis c'est une grande action. Hein. Il y a des gens qui le faisaient avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 15 ou 20 ans, une personne hein, qui habite pas dans la mosquée faisait venir des qaris pour le mois de Ramadan. C'était une bonne chose. Après, bon, il y a une petite interruption. Alhamdulillah, s'il y a des gens qui peuvent reprendre, hein, faire venir du Coran, c'est une chose excellente. Excellente. Mais, Inch'Allah, on va écouter avec beaucoup d'attention et que leur venue, Inch'Allah, remplisse nos cœurs d'amour pour le Coran, pour les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Jazakum allah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.